le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Mary D ai microfoni questa sera, vi ricordo è martedì sera, sono le 21. Sono in compagnia di Daniele in regia. Salutiamo Georges Laurent e Fiordaliso che non sono qui con noi questa sera, entrambi all'estero per motivi di lavoro. Ovviamente ci mancate e speriamo di avervi prossimamente, quindi già martedì prossimo, qui con noi. È finalmente arrivata l'estate anche a Bruxelles, finalmente un po' di sole, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, evidentemente la nostra puntata è stata di buon auspicio e speriamo che queste splendide giornate di sole possano continuare. Questa sera vogliamo parlare di mare. Mare perché significa tante cose, non solo perché siamo in estate, un po' perché continuo a ringraziare veramente tutti coloro che continuano a scrivere a Bruxellando e che mostrano ancora un interesse verso la nostra trasmissione. Per il momento noi siamo ormai a fine anno, siamo quindi insomma in chiusura, ci restano, ahimè, e lo dico con un po' di nostalgia e tristezza, 4 puntate, però ritorneremo. Stiamo riflettendo a quello che possono essere nuovi contenuti di Bruxellando da metà settembre fino a settembre, quelle che poi sono le disponibilità della radio. Quindi continuate comunque ancora a scriverci, sicuramente ci saranno delle novità che riguarderanno la nuova Bruxellando e quella che sarà la terza edizione di Bruxellando, però siamo sicuri che anche il nuovo formato vi piacerà. Mare, perché mare? Mare perché siamo in estate, mare perché abbiamo voglia di vacanza, mare perché siamo sommersi dalle parole, siamo sommersi da questi nostri amici scrittori che sono qui con noi, in particolare anche questa sera. Questa sera infatti abbiamo il piacere di ospitare un poeta croato al telefono e Dani M in regia si accinge già a comporne il numero di telefono, Dražen Katunari, Dražen, corretto? Dražen Katunaric, e abbiamo anche qui con noi, finalmente, devo dire la verità, ci abbiamo messo un po' di tempo ad avere la nostra ospite, Monique Tomasetti, che diciamo si racconterà lei stessa, quindi tra poco cederemo la parola a Monique. Aspettando Dražen al telefono, mi fa piacere innanzitutto ricordare Gerard Adam, che è un nostro carissimo amico, sostenitore di Bruxellando e che veramente ringrazio di cuore per due motivi. Prima di tutto perché riesce sempre a sorprendermi con dei suggerimenti di lettura bellissimi, tra cui Climia Slow in francese di Monique, che ho veramente ammirato tantissimo per la ricchezza di dettagli, e ne parleremo tra poco, ma anche per Le Baume du Tigre di Dražen. Quindi Gerard, veramente je te remercie beaucoup parce que tes suggestions en ce qui concerne les écrivains et les poètes, je les apprécie beaucoup. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses, de retrouver des sujets que j'aime beaucoup. Et donc merci. Donc je vois déjà Daniel prêt à la régie. Dražen.
Allô?
Allô? Bonsoir. Est-ce que tu peux entendre ma voix? Allô?
Bonsoir.
Donc tu es maintenant avec nous ici à Bruxelles, Bruxellando. Ici nous avons Monique Tomasetti et Gerard Adam. Et donc c'est avec un très grand plaisir que nous sommes ici à entendre les thèmes de ta poétique et surtout de ton dernier roman, Le Baume du Tigre.
Ah, je suis très content d'apprendre que Monique et Gérard sont là,
oui,
mes amis, je leur dis bonjour, bonsoir, et à tous les gens qui écoutent la radio.
C'est bien. Allô? Oui. Moi, je t'entends très bien. Est-ce que pour toi, c'est la même chose?
Je n'entends pas aussi bien que vous, mais je me concentre et puis j'arrive à capter le sens.
D'accord. Alors moi, j'ai eu le plaisir donc de te connaître à travers donc Gérard. Et je sais que tu es né à Zagreb. Et que tu es diplômé en philosophie à l'université de Saint-Humain de Strasbourg. Où tu as, voilà.
Ça, oui.
Donc, tu es même rédacteur de la revue La Lettre Internationale, rédacteur en chef de la revue littéraire Most de Bruges, ainsi que de l'édition croate de la prestigieuse revue Le Messager Européen, qui est en croate, et Europski Glasnik. C'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Et que donc tu es même directeur de la maison d'édition Litteris. Donc
oui.
Moi je suis très honorée. Je suis très honorée de t'avoir ici en ligne. Et j'espère peut-être un jour à Bruxelles, n'est-ce pas, Gérard? Peut-être on pourra l'inviter très prochainement, même ici à Bruxelles en général et à Bruxellando en particulier. Je sais aussi.
Oui,
ah, voilà. Donc, je sais que ton œuvre jouit d'une réputation désormais internationale, qui comprend une douzaine de recueils de poèmes, de nombreux essais, un roman, et naturellement, la présent recueil de nouvelles, c'est-à-dire Les Baumes du Tigre. Je sais aussi que certains de tes œuvres ont été traduits en français, en italien, qui est, comme tu peux entendre, l'Italie est mon pays d'origine, l'anglais, l'allemand, l'albanais, et le bulgare, l'hongrois, le roumain, le slovaque et le corse. Donc tu es un vrai européen, ça je peux le dire.
Oui, en fait, oui, bien sûr. Vous avez bien dit là, c'était très, très juste.
Voilà, et à travers donc le soutien de Gérard, on a même pu avoir une traduction en français. Et moi, j'ai ici, parce que j'ai reçu en cadeau, Le Baume du Tigre. Donc, je l'ai lu avec plaisir. Oui, parce que j'ai retrouvé en plus pas mal de thèmes dont nous avons beaucoup parlé ici à Bruxellando, comme par exemple le voyage. Tu dois savoir que le voyage est un des thèmes centrales ici à Bruxellando.
Oui,
dans ton cas, il n'est pas seulement le voyage, mais malheureusement, il y a même le voyage forcé, il y a l'exil, parce que malheureusement, on ne peut pas choisir certaines situations, on doit les vivre, et donc chacun doit choisir un parcours. Et donc, il y a même l'éloignement des racines lors des séjours à l'étranger, et comme tu vois, nous aussi ici, on a pu choisir la formule de l'exil. Malheureusement, ça on doit le dire. Donc n'importe où il y a, comme on dit, le scénario de tes nouvelles, donc n'importe si on a l'Inde, si on a un pays arabe ou la Chine, les thèmes restent toujours les mêmes. Donc, mais c'est pas moi de te raconter. Je voulais donc entendre surtout ta voix et raconter de ton parcours à tout le monde qui nous écoute maintenant.
D'accord, oui. Si j'ai bien compris, vous avez donc mentionner ce thème de voyage,
voilà,
qui est
oui.
pour essentiel. Alors, justement, c'est dans ce livre que j'essaie de montrer cette ambiguïté, justement, du voyage, dans la mesure où, d'un certain côté, il y a cette découverte et l'émerveillement devant de nouveaux paysages, d'autres peuples, des mœurs, d'autres langues qu'on découvre en voyageant, donc une multitude de choses qui paraissent devant nos yeux, et donc et d'un autre côté il y a ce sentiment qu'à la fin de ce voyage on retrouve toujours soi-même d'une manière ou d'une autre inchangée, c'est-à-dire que justement ce livre c'est un peu une sorte de parodie d'un voyage initiatique, c'est-à-dire on s'initie à quelque chose, on s'attend à ce que ce voyage nous change profondément et que mais au bout de tout cela on retrouve soi-même. Et en fait, on se rend compte qu'il s'agit là d'une fuite, peut-être plutôt d'une fuite devant soi-même, et que on porte toujours les mêmes problèmes, on emporte avec soi, et qu'on change de cadre, qu'on change de pays, il y a toujours ces mêmes problèmes qu'on a en soi-même et qu'on ne peut pas changer en voyageant. Donc, il y a cette ambiguïté. Et d'un autre côté, il y a aussi cette, disons, condition ontologique de l'homme qui est, par définition, un voyageur. C'est-à-dire, même s'il est nomade, même s'il ne vit pas comme nomade, même s'il vit une vie sédentaire, le voyage est en fait sa destinée, c'est-à-dire que il est sur Terre d'une manière éphémère. Donc il est un passager sur la Terre, il est un voyageur. Et alors, en voyageant justement, on retrouve cette un peu cette condition ontologique qu'on porte déjà en germe en soi-même. Et alors, dans ce recueil de nouvelles, là, il s'agit justement d'un voyage en Inde, d'un voyage en Chine et puis dans les pays arabes, où il est question de faire découvrir, disons, cet exotisme. Et c'est un voyage que les personnages qui figurent dans le livre donc effectue par un sentiment d'insuffisance. Donc tous ces personnages ont un sentiment d'insuffisance et, disons, une tension un peu aveugle qui les pousse vers des sommets inatteignables, c'est-à-dire vers quelque chose qui puisse pas atteindre par ce voyage. Et alors, donc c'est ce qui leur arrive.
Votre solde est de 3,97, composez le numéro de votre correspondant suivi de la touche étoile.
Caduta la linea? E voilà, questi sono gli imprevisti della diretta e siamo sempre qui, cari amiche e cari amici, brussellando. Stavamo ascoltando ed eravamo pressoché incantati dalle parole di Dragen. Però, Gérard, un attendant, donc, che Dani alla régie, voilà, en attendant dans la régie, je pense qu'on pourra lire bien un morceau de la bombe du tigre. Et donc, à Gérard de lire, parce que je sais qu'il a choisi un passage très intéressant.
J'ai choisi justement le passage qui parle du baume du tigre dans la première nouvelle. Il faut dire que je suis très familier avec non seulement ces nouvelles, mais la poésie de la Jeanne Katunalich, puisque j'ai contribué à leur traduction. Donc ici, le personnage vient de rentrer de Chine. On dit de moi que la plupart du temps, je sens le baume du tigre. Et certains, à mon passage, se pincent le nez en signe de répugnance. En fait, il s'agit d'un ancien stock. De cette minuscule chose en fer blanc, comment la destinée peut-elle sortir? Après le rejet de Weixing, j'ai acheté des centaines de ces petites boîtes rouges et rondes avec une étoile et des dessins de tigres et de dragons. De leurs mains, en vérité. Je ne peux cependant perdre une fois de plus mon âme en affirmant qu'elle seule est coupable de m'avoir enseigné l'acquisition à vil prix de marchandises douteuses. Avant mon départ en Chine, des amis, à présent je sais de quel genre, le faux surtout, m'ont suggéré d'acheter le plus possible de ces boîtes parce qu'à Zagreb, elles coûtaient des fortunes et qu'elles étaient fort recherchées pour certaines maladies incurables. Je n'ai pas vérifié ces données, j'ai cru ces gens sur parole comme je l'ai toujours fait. Je me suis procuré toute une caisse de baume du tigre qui là-bas est très bon marché, à peine quelques yuan pour une petite boîte, avec l'argent qui aurait dû payer Weixing. Après avoir passé le tout en contrebande, je me suis cru un homme fortuné. Ce n'est que le lendemain au marché que j'ai compris qu'on s'était moqué de moi. On y vendait les mêmes boîtes pour quelques malheureux sous. Je me souviens de ma désillusion. Je me suis senti ébranlé. Ma vie à ce moment a changé du tout au tout. Tant m'a démoli cette image d'une vieille bien de chez nous en fichu noir qui vendait là son baume du tigre comme du fromage ou de la crème fraîche. Ce même baume auquel j'avais si péniblement, ainsi que de l'or pur, fait traverser la frontière chinoise. Quelque chose s'est bloqué dans ma gorge, et à l'instant, par pure vengeance, j'ai décidé de ne rien vendre mais de m'enduire moi-même de ce baume jusqu'à épuisement du coffre.
Dragen.
Oui, je voilà.
Donc on avait Gérard ici en attendant, en t'attendant encore une fois. On a eu un problème de ligne, donc, mais c'est pas grave. On était en train donc de s'interroger sur les vides que parfois nous avons en voyageant. Donc peut-être ces vides, c'est le désir du retour.
Oui. C'est pas. Je ne sais pas dans mon cas si c'est un désir de retour, mais je pense que il y a au départ en fait un vide comporte déjà, là je suis en train de rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ce vide on l'emporte déjà depuis chez soi, donc c'est un vide qui est donc rempli par cette découverte du nouveau, n'est-ce pas? On est comme un enfant, n'est-ce pas, qui découvre de nouvelles choses et qui est en train de les nommer, de savoir leur nom dans une langue différente, de pouvoir avoir une relation presque originelle avec les choses. Mais du coup, ce qui se transforme, c'est que à un moment donné, il découvre ce vide, à savoir qu'il a une relation inauthentique avec cette réalité, parce que peut-être étant touriste, peut-être étant quelqu'un qui vient ici comme ça en superficiel, je me souviens que justement là dans ce conte sur l'Inde, je fais un peu une parodie des voyages hippies qui étaient à l'époque très à la mode, c'est-à-dire les gens qui jouaient un peu au Kerouac alors qui allaient découvrir l'Inde et en fait qui avaient un sens disons très critique par rapport à leur propre religion, à savoir le protestantisme ou catholicisme, et qui voulaient couper avec cet héritage, ces dogmes, parce qu'ils étaient très très critiques. Mais en fait, une fois venus en Inde, ils se sont courbés sans aucune critique à des divinités spécialisées. Donc ils ont lu Bhagavad Gita, ils avaient ça sous leurs mains, et les Védas. Ils pensaient qu'ils découvraient l'Inde avec toutes sortes de livres qu'ils ont emportés de chez soi. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, par exemple, nous découvrons la Grèce actuelle avec les livres de Homère, en négligeant le fait que la Grèce a depuis eu c'est pas combien de siècles de présence turque et d'histoire balkanique, donc d'histoire qui a complètement changé donc l'identité. Alors là, il s'agit justement d'une fausseté. De quelque chose d'inauthentique qui se crée lors d'un voyage. Mm-hmm. D'un côté, cet horizon d'espoir, justement là, tout à l'heure, je parlais justement de ce mode hippie, par exemple, les gens qui renoncent, par exemple, qui vont apprendre la spiritualité hindoue en allant dans les ashrams. Mais en fait, ils sont pas conscients que c'est de nouveau cette spiritualité présupposée indienne, que en fait, elle a été commercialisée, que en fait, c'est que le tourisme spirituel fait partie des grands bénéfices de l'État. Donc, je veux dire, on se leurre souvent en voyageant. Et on pense découvrir certaines choses qu'on prend nous-mêmes pour des réalités. En fait, ce sont nos fantasmes et nos projections de cette terre promise qu'on est allé découvrir. Mais de nouveau, ça peut terminer par une grande déception.
Voilà. Dragen, malheureusement, comme tu sais, à la radio, le temps passe vite. Et moi, je resterai ici à t'écouter au moins jusqu'à minuit, et même plus que ça. Mais le temps ici passe très vite. Donc, avant de donner peut-être la parole à Monique, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais bien saluer ici ce soir?
Ah, j'aimerais beaucoup saluer, comme j'ai dit, Monique Tomassetti et Gérard Adam, parce que grâce... à Gérard Adam et Tomislav Zreta, grâce à leur traduction qui était très bien faite, je veux dire qui était très assidue et très perfectionniste, j'ai pu vraiment lire mon texte en français comme s'il avait été écrit en croate. Et là je suis très content parce que souvent, vous savez, si la traduction n'est pas bonne, alors vous pouvez faire une bonne nouvelle ou c'est pas roman, peu importe, mais ça rend pas. La traduction est essentielle. Et vous, en italien, vous avez cette géniale proverbe, expression traduttore traditore, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Oui. Alors c'est ça. Et justement, là, c'était vraiment le contraire. C'était la traduction comme confirmation de quelque chose, et je suis vraiment très très reconnaissant à Gérard, et je suis content aussi que Monique soit là, qui est une excellente poète, et
oui,
je les salue comme tous vos auditeurs.
D'accord.
De Bruxelles. Et je remercie beaucoup à vous pour des questions qui étaient très intéressantes et qui m'inspirent,
okay.
Je pense souvent.
Donc Dragen, un grand merci à toi et Bruxellando, l'équipe de Bruxellando souhaite te rencontrer aussi à Bruxelles. Donc,
moi aussi, je l'espère bien.
J'espère à très bientôt aussi à Bruxelles et à Bruxellando.
Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada dando l'aria sulla faccia, oh, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so, questa notte partito da Bologna con le luci della sera, forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo, oh, questa notte mi porta via, Ale, questa vita mi porta via, mi porta al mare.
Écrivain et peintre, reconnu en communauté française de Belgique et au-delà. Auteur de plus de 30 ouvrages de poésie, contes, nouvelles, romans, théâtre. J'ai le plaisir ici ce soir de rencontrer, après longtemps, Monique Tomassetti, qui, imaginez-vous, a été l'invité des journées belges de Sarajevo en 2001, ainsi que des prestigieux Sarajevski Dani Poesie, journée poétique de Sarajevo en 2004. Elle a développé des précieuses amitiés avec des écrivains de Bosnie et Croatie, qui apprécient sa poésie de nature méditative et spirituelle, intégrée dans l'espace humain et la nature. En décembre 2007, la prestigieuse revue littéraire croate Europski Glasnik, le messager européen, a publié en traduction 10 poèmes extraits de son recueil « L'infrangible vision ». À côté d'auteurs comme Nancy Huston, Roland Barthès, Jean Baudrillard, et voilà, et tout le reste. Donc, moi, je ne vais pas dire d'autre chose en plus, parce que j'aimerais bien, étant donné que Monique est ici avec nous, elle puisse raconter son parcours, parce qu'elle n'a pas commencé avec la poésie, n'est-ce pas?
Mais en réalité, j'ai commencé de dessiner avant d'écrire, comme tous les enfants, parce qu'avant d'apprendre et de savoir écrire, l'enfant dessine. Donc il est normal que j'ai commencé par là, et comme je suis tardive, il n'y a pas si longtemps que j'ai quitté l'enfance, il y a quelques années. Donc j'ai peint jusque l'an 2000 environ. En réalité, j'ai peint de moins en moins, j'ai écrit de plus en plus. Ceci dit, j'ai toujours écrit et peint parallèlement depuis mon adolescence. Et adolescente, j'avais davantage de joie à écrire des poèmes qu'à dessiner, parce que j'ai trouvé mon expression symboliste seulement beaucoup plus tard. Donc c'est le même univers, que ce soit pictural ou écrit ou scriptural, l'univers est le même, mais la forme diffère. Maintenant, je ne pratique plus du tout la forme plastique du dessin et de la peinture, comme je viens de le dire, depuis l'an 2000 et même avant. Et j'écris davantage, j'écris des heures tous les jours, ce qui fait que j'ai quelques livres en effet publiés à ce jour.
Donc ce soir, on est ici, plutôt pour discuter ensemble, Tilly Miaslo. Ou sinon on peut le dire même à l'italien, Tilly Miaslo. Comme ça.
C'est joli avec l'accent italien.
Avec l'accent italien, oui. Tilly Miaslo. Donc tout d'abord, j'ai vu qu'en couverture, donc il y a la rose, qui est un des tableaux que tu as peint en 1985.
85, oui.
C'est une très jolie photo, je dois le dire, peinture. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en Tilly Miaslo?
Mais en fait, ma nouvelle part, comme point de départ de ma nouvelle, c'est la mort d'une femme qui met au monde une petite fille. Et en expirant, elle essaye de dire à son mari quelques mots, mais elle n'arrive à dire que quelques lettres. Donc, le mari prend note avec des petits points entre chaque lettre, et il en ressort Tilly Miaslo. Donc, c'est comme un cadeau qu'elle fait à son enfant et à son mari avant de partir. Alors le jeune papa trouve ce nom tellement beau qu'il baptise le nom, qu'il baptise sa fille, qu'il choisit comme deuxième prénom pour sa fille Tilly Miaslo, le premier prénom ayant été choisi par lui et son épouse, à savoir Lyra. Donc là, il y a aussi un jeu de mots sur Lyra avec Y, mais on peut le lire Lyra du verbe lire, et lire, bon, de lyrique. Voilà. Alors c'est aussi, la maman était une femme qui chantait en vacances ses occupations ménagères, mais elle inventait des mélodies et disait de temps en temps un mot. Ce Tilly Miaslo rappelle sa manière de s'exprimer, qui était une mélodie et quelques mots clairsemés dans cette mélodie.
On retrouve même d'autres histoires quand même. Qu'est-ce qu'on retrouve encore
dans cette histoire, oui. Même, mais évidemment, la fille, en fait, il n'y a pas vraiment une histoire. Les histoires, je m'en méfie toujours un peu, parce que je trouve souvent les histoires interchangeables. Je dirais que pour moi, raconter une histoire me permet de dire certaines de mes pensées, certaines de mes intuitions, certains de mes sentiments. Donc c'est plutôt l'occasion d'eux, parce que l'histoire est très mince. Bon, c'est vrai que, enfin, très mince, si on peut dire. Elle perd sa maman, elle vit avec son papa. Elle va d'elle-même visiter la bibliothèque publique de sa petite ville et lire des ouvrages qui ne sont pas pour son âge, mais néanmoins en retirer quelque chose. J'ai écrit cela parce que je suis de l'avis de Marcel Proust et de Colette, qui l'un et l'autre ont dit la même chose à propos des livres pour enfants. Eux estimaient que les enfants devaient pouvoir tout lire, enfin bien sûr dans certaines certaines proportions, pouvaient tout lire. Ce qu'ils en comprenaient était peut-être incomplet, mais plus tard, en reprenant ces mêmes lectures, leur compréhension allait s'étoffer. Du reste, ça, ceci, c'est moi qui le dis, quand on est adulte et qu'on lit des livres, même le roman le plus facile, apparemment facile, qui dit que on va saisir tout ce que l'auteur a mis dans ses écrits, a mis consciemment et inconsciemment. Donc, toute lecture est toujours partielle, il y a toujours quelque chose qui échappe.
Oui, ça, malheureusement, c'est comme ça. Et oui, je pense, en tout cas, que c'est bien. Parce que si on va tout comprendre d'une œuvre, d'un ouvrage, qu'est-ce qu'il nous reste ?
Absolument. Et puis bon, il y a un mystère et il y a quand même quelque chose qui passe à un autre niveau qui n'est pas conscient. Ce niveau qui va nous faire rêver la nuit, par exemple. Bon, là, je rentre dans le domaine de la psy. Mm-hmm. Enfin, la psy, psychanalyse, psyché, ça veut dire âme. Donc, on entre au niveau de l'âme. Donc, ce que l'âme reçoit inconsciemment, eh bien, va nourrir. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dragan Katunaric, qui me pardonne, parce que je pense que les voyages, justement, permettent des rencontres de l'ailleurs. Ceci dit, ici, on rencontre aussi l'ailleurs, puisqu'on est tous différents, qu'on est tous autres. Donc, ce vide n'existe jamais. Au lieu de vide, moi, je parlerai d'air, d'atmosphère, qui devient espace et qui pour moi véhicule justement des dialogues au niveau des âmes, entre âmes, lesquels dialogues nourrissent et apportent quelque chose. Donc, mais c'est toujours à un niveau. La méditation évidemment permet de prendre conscience de ce genre d'apport et de rencontres et d'échanges.
Chateaubriand disait qu'il avait une étrange blessure qui était quelque part et que pour finir il n'était nulle part. Peut-être c'est ça qu'on essaye quand même à trouver, à retrouver.
Enfin, personnellement, je n'ai pas ressenti ce que Chateaubriand a écrit. Je fonctionne un peu différemment. D'abord, Chateaubriand était un homme, Dragel était un homme, et moi je suis une femme.
Oui.
Alors bon, les femmes, nous fonctionnons quand même déjà anatomiquement, intérieurement, puisque déjà nous portons l'enfant dans notre ventre. Oui. Je ne veux pas complexer les hommes à ce point de vue-là. Mais donc, je crois vraiment que là, c'est vrai que les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence d'écriture. Mais il y a quand même au niveau existentiel, je pense, une différence. Maintenant, ceci dit que lorsque le niveau existentiel est tout à fait déprimé, il peut aussi bien, cette dépression peut atteindre les femmes comme les hommes. Donc, écoutez, si je me lance là-dedans, ma pensée va devenir labyrinthique, parce qu'il y a tellement de choses à dire, passer d'un niveau à l'autre, faudrait quelques heures.
Non, tout à fait.
D'ailleurs, écoutez, c'est pour ça que j'ai écrit.
Oui, bien sûr, on préfère peut-être lire.
Exprimer tout cela.
Et alors, moi, je voulais aussi poser encore une autre question. Je voudrais rappeler donc que les livres, soit de Dragan, soit de Monique, ont été publiés par Meo Éditions. Et je viens de découvrir cet après-midi, c'est Monique qui a pensé même au logo. Et en les regardant, je me suis dit, ce logo doit avoir une histoire derrière.
Oui, il y a
une histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Mais voilà, Spomenka Zumhur, qui a lancé Mode Est ou Ouest, avait organisé une exposition de peinture. Et Gérard Adam, qui s'occupe avec elle de Mode Est ou Ouest, m'avait demandé un dessin. Et j'avais choisi un dessin où j'ai représenté quatre visages. Je l'ai baptisé à ce moment-là les quatre points cardinaux pour compléter, pour avoir le nord et le sud.
Ouais.
Alors, à partir de là, Spomenka a mis un autre petit logo qui était une espèce de carré. Alors Gérard, étant très actif dans ses éditions, cherchait quelque chose de plus élaboré. Et il m'a demandé si par hasard je pourrais faire un logo. je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, dans la mesure où j'ai dessiné dans les années 90 des mandalas, donc des ronds dans un carré, ou des carrés dans un rond, eh bien, je me suis rappelé un dessin noir sur blanc, qui est celui du logo, mais tout autour, j'avais placé quatre courbes. Mmh. Alors, j'ai mis ce truc blanc, du Tipex, sur les quatre petites courbes, de sorte à n'avoir plus que la croix. Et alors Gérard Adam a trouvé ça très joli et il a accepté. Ça fait un petit peu étoile de neige aussi. Alors je suis honorée de voir cette étoile, ce mandala comme logo de Mayo.
Alors moi je le trouve très bien. Il a même quelque chose de très oriental. Peut-être que je me trompe. Je sais pas, comme impression,
c'est possible.
Comme premier sentiment, quoi.
On fonctionne universellement. Oui, d'ailleurs, vous savez, l'Orient est partout, hein. Parce qu'on est aussi en Orient, tout dépend de quel point de la planète on regarde ce qu'on appelle l'Occident.
Tout à fait, Là, je suis d'accord. Et qu'est-ce que vous êtes encore en train d'écrire maintenant? Il y a des nouveautés qui vont bientôt paraître. On peut déjà annoncer quelque chose?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, comme je publie beaucoup, parce que mes livres ne sont jamais volumineux et que mes genres sont différents. Bon, par exemple, Gérard Adam, lui, quand il a un roman, c'est presque 1000 pages, mais c'est un roman. Bon, ben moi, pendant ce temps-là, j'aurai 5 livres de 100 pages ou 120 pages, mais dans des genres différents, des poèmes, du théâtre, des contes, donc je peux difficilement tout publier en un seul volume. Mmh. Voilà, donc j'ai plusieurs ouvrages dans des genres différents. Donc, Mayo accepte heureusement de me publier. Mais en plus, comme j'ai souvent plus qu'un livre par an, j'ai lancé des auto-éditions. Et je viens de publier ce que j'appelle un roman et qui peut être aussi un conte, et du théâtre. Et puis l'an prochain, j'aurai des poèmes de nouveau chez Mayo avec des dessins. Et puis maintenant, je suis en train d'écrire, ça sera, je ne sais pas pour quand, un recueil de poèmes et d'autre part des nouvelles. Donc, j'aime sauter j'ai besoin de passer d'un genre à l'autre. Je crois que si je devais écrire un long roman, ça m'ennuierait.
Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que c'est une très bonne explication.
Je suis trop gourmande, peut-être. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise d'écriture. Mais enfin, ceci dit, dans un roman, bon, comme Gérard Adam, qui place des poèmes aussi, on peut tout mettre aussi.
Oui, bien sûr.
C'est une façon de fonctionner. Heureusement que les écrivains ne sont pas les mêmes. Il faut de tout pour faire un monde littéraire.
Heureusement.
Alors, c'est bien.
Donc, avant de dire au revoir à nos écouteurs, est-ce qu'il y a un message en particulier, ou je ne sais pas, un mot pour quelqu'un, ou je ne sais pas.
Oui, je dirais ceci, puisque la terre italienne est celle de mes ancêtres, de mon côté paternel, eh bien voilà, pour cet Tomasetti, à l'époque, ça s'écrivait autrement, sans E au bout, sans H, puisque au fil des générations, l'orthographe a changé. Eh bien, voilà pour mes ancêtres paternels, qui, au départ, je crois que ça remonte au Moyen-Âge, travaillaient dans les cathédrales et faisaient des vitraux. Et j'aime beaucoup les vitraux. Eh bien, voilà pour tout ce monde-là de créativité italienne. J'ai une pensée particulière.
Ah, ça c'est très bien, ok. Un grand merci. Donc c'est moi, bien évidemment, que remercie à la fois Gérard pour être toujours présent. Et bientôt, on va voir donc un Bruxellando Special. Et vous allez comprendre pourquoi si vous allez voir notre blog. Je remercie donc Dragan qui était en Croatie. Et nous espérons l'avoir très bientôt ici à Bruxelles. Et bien évidemment aussi Monique. Et moi, je conseille à tout le monde de lire Klimi Aslo, qui est donc publié par Édition Méo. Je vous annonce aussi également que si tout marche bien comme ici nous le souhaitons, pour la fin de septembre, on est en train d'organiser une manifestation un peu plus importante. Comme ça, un peu tout le monde à Bruxelles peut connaître les auteurs qui sont autour d'Edition Méo. Donc je remercie encore une fois Gérard, Monique, et j'espère les avoir à nouveau ici à Bruxelles très bientôt. Un grand, grand merci. Donc, vedo che sono lì in studio e non me ne vogliate, Paolo e Stefano, e vi lasciamo la parola perché come sapete non c'è Imola questa sera, quindi non c'è il Librangolo, quindi probabilmente ci sarà modo di ascoltare magari un brano in più di jazz. Daniele lì in regia già sa quello che si potrà fare. Io quindi ringrazio ancora una volta Monique Tomasetti, Gerard Adam, Dražen Katunaric e tutti coloro i quali lavorano e partecipano alle edizioni MEO. Lascio quindi ora i microfoni a Stefano e a Paolo per Jazz e dintorni.
Qua da una Bruxelles tropicale.
Ciao, buonasera a tutti. E infatti per sconfiggere il caldo tropicale questa sera parliamo di mari.
Allora, questo è un caldo saluto anche da Stefano, naturalmente. E sì, il mare direi che si lega bene a questa nostra temperatura che troviamo qui. Anche se oggi viaggeremo un po' per diversi mari, Paolo?
Sì, perché partiamo dall'Europa e poi viaggiamo piano piano, io direi, verso ovest.
Sì, infatti i mari, si dice mare, ma in realtà quando noi parliamo di questo elemento importante della terra, noi immediatamente, almeno come italiani, pensiamo al mare in senso di spiaggia, sole, bagni, ma no, il mare non è solo così, no? Anzi, direi che la maggior parte dei mari non sono di questo tipo.
Sono più freddi e infatti partiamo parlando di mari del nord, mari molto freddi, e prima di farci raccontare da Stefano cosa ascoltiamo di mari del nord, vi ricordiamo, come abbiamo fatto in Aspettando Bruxellando, che il 10, 11, 12 luglio c'è il Festival del Mare del Nord della musica jazz a Rotterdam. Trovate tutte le informazioni su www.northseajazz.com.
Sì, è un appuntamento da non mancare, non finiremo mai di ripetervi come sia importante partecipare a questi tre grandissimi giorni di jazz.
E riusciamo anche questa sera a farvi sentire qualche cosa che vi ricorda la scaletta di questo prestigioso festival.
Comunque, il primo pezzo che vi sottoponiamo appunto è relativo al Mar del Nord. Mar del Nord fa subito pensare naturalmente alla Scandinavia, e c'è un paese in Scandinavia, uno dei paesi scandinavi, la Norvegia, che è particolarmente prolifica in termini jazzisti.
Oltre che di gas.
Diciamo l'economia e la cultura vanno insieme. E ci sono dei grandissimi jazzisti che hanno veramente delle sonorità molto particolari, sono immediatamente riconoscibili, e noi quello che abbiamo scelto oggi è proprio su questo filone.
Sonorità non a caso gelide a volte, rarefatte, che ci portano verso quelle latitudini.
Beh, gelide è sempre un termine pericoloso perché può dare l'impressione che sia fredda la musica. No, non lo è assolutamente, trasmette altre sensazioni rispetto a quelle solari a cui potremmo essere abituati. In questo caso sentiamo quattro grandissimi musicisti, tre di questi sono scandinavi e uno è americano, ma il gruppo è quello di Ketil Bjørnstad, è il pianista norvegese, con il violoncellista David Darling, l'unico americano in questo caso, e il chitarrista Terry Ripdal, molto particolare, lo sentirete un po' in sottofondo, e il batterista Jon Christensen. Il pezzo è tratto da un disco che non a caso si chiama The Sea Number 2 in questo caso, e il titolo di questo particolare pezzo che facciamo ascoltare si chiama Mime. È un disco del 1998 e non a caso è un disco ECM.
Parleremo di ECM. Suoni ECM.
Beh, direi che a quest'ora della sera di un giorno di lavoro ci sta bene anche questo tipo di musica.
Ci sta. L'ECM del grande Jan Garbarek, altro norvegese sassofonista, grandissimo musicista che probabilmente riusciremo a fare.
Io direi del grande Manfred Eicher,
fondatore,
produttore, cioè. Sempre lui con che ha questi suoni. Beh, insomma, avete avuto un'idea.
Tuffiamoci dal mare del nord, adesso nel nostro più familiare e caldo Mediterraneo, con un artista che non solo è mediterraneo, ma è anche italiano, ed è Stefano Bollani.
Sì, uno dei grandi musicisti, pianisti italiani, ma non è solo un musicista, noi ne abbiamo già parlato in passato. In realtà Stefano Bollani è un personaggio estremamente eclettico.
Fa radio, scrive, non sta mai fermo. Tra l'altro ha un modo di suonare dal vivo molto godibile anche per un pubblico non necessariamente jazzistico, perché ha questa abitudine di fare delle improvvisare piuttosto che in un formato standard jazz, chiedendo al pubblico cosa il pubblico vuole sentire.
Sì, è sicuramente un grande improvvisatore, riesce a cambiare completamente i pezzi che suona, ma con una maestria e con una creatività assolutamente particolari.
Lo ascoltiamo?
Sì, beh, direi di sì, in questo caso lo ascoltiamo anche alla voce, perché Stefano Bollani canta anche. In questo pezzo lui è legato al mare anche in senso stretto, perché si intitola Il mare si è fermato, ed il disco da cui lo abbiamo tratto è un disco del 2004, si chiama Smat Smat, sono due parole danesi, sì, però non mi domandare cosa significano, non me lo ricordo.
Stefano Bollani dal Smat Smat 2004.
Il mare si è fermato.
C'è un filo di vento eppure le cose continuano a muoversi, ma le cose non cambiano mai, si spostano solo da un luogo ad un altro. Fermato, e gira la chiave nell'acqua. Le navi tornano nel porto. Non c'è un filo di vento, eppure le cose continuano a muovere.
Davide Bollani, bellissima la sua voce.
No, Davide no. Stefano.
Beh, ti vedo, ti vedo.
Scusami, è lo stesso mio nome.
Perché Stefano sei tu, Stefano, se non
no,
riesco.
Ma magari io non ho niente a che vedere con Bollani, mi piacerebbe.
Povero Bollani. Beh, insomma, bel pezzo. Un Mediterraneo sognante.
Va detto che Stefano Bollani riesce a fare dei pezzi estremamente diversi fra loro, infatti suona in contesti molto diversi. E proprio a proposito di contesti diversi, possiamo dire che a Rotterdam lui ci va.
Lui ci sarà.
Ci sarà il venerdì,
che è il 10 luglio 2009, a Rotterdam, North Sea Jazz Festival.
E suonerà con i Visionari, un altro gruppo molto interessante, un'altra conformazione, forse abbastanza vicino a questo tipo di atmosfere che abbiamo sentito. Ma insomma, Bollani ha anche inciso recentemente dei bellissimi dischi con Enrico Rava e, tra parentesi, non a caso ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, incisi con la ICM.
Esatto, per cui ricordatevi, per Rotterdam Jazz Festival è incluso il buon Stefano Bollani il 10 luglio alle 7:15, northseajazz.com. E continuiamo, Stefano, il nostro giro di mari.
Ma no, adesso se tu sei d'accordo facciamo un grande salto.
Facciamolo.
Innanzitutto facciamo un salto perché passiamo da un mare chiuso, il mar Mediterraneo, a un oceano, e andiamo veramente a un oceano molto grande, l'oceano Pacifico.
Muniti di pinne. Beh, No, passiamo subito al Pacifico, ma sì, scavalchiamo l'Atlantico, facciamo una specie di circumnavigazione, non so passando bene da dove, da Bering.
Pacifico. So dove arriviamo nella West Coast americana.
Quello sì.
West Coast, che dà anche il nome al West Coast Jazz, che è proprio un genere vero e proprio, tantissimi musicisti, e stasera ne abbiamo scelto uno molto particolare e molto bravo fra questi musicisti,
che è uno dei grandi rappresentanti del sassofono jazz, David Murray, californiano di Oakland, che sceglie nella sua evoluzione, come tanti sassofonisti degli anni 70, 80, 90, di ispirarsi a un grande modello, ma al contrario di molti che si ispirano a quel colosso che è John Coltrane e dunque al suo modo di suonare, si ispira a modelli antecedenti, ad esempio il grande fondatore del bebop, che è Coleman Hawkins, di cui vi abbiamo già fatto sentire alcune cose. Questa sera lo ascoltiamo invece in una formazione solo di sassofoni.
Sì, è un quartetto molto particolare, sicuramente interessante, quindi un po' diverso da quello che siamo abituati a far ascoltare, ma sicuramente che merita molta attenzione. Infatti non a caso si chiama Waltz Saxophone Quartet.
Questo è un disco del 1998 da Review, il pezzo si chiama David's Tune, ascoltate il sassofono di David Murray al quale poi si accompagnano gli altri tre compagni di avventure.
Ha ha ha! Saxophone Quartet.
Che cosa si può fare con un sassofono, anche il sottotitolo si potrebbe dire.
Bellissimo. E chiudiamo il giro dei mari tuffandoci nell'oceano Atlantico, che c'era rimasto finora non toccato in questo periplo, ed è quello di un musicista della East Coast degli Stati Uniti, che è Kevin Eubanks.
Sì, Kevin Eubanks è un musicista relativamente giovane rispetto a quelli che vi ho fatto ascoltare, ha 52 anni, è nato a Filadelfia, appunto, parlando di East Coast in questo caso, e proviene da una famiglia di musicisti, senz'altro, e anche lui suona la chitarra, non l'abbiamo detto, è un grande chitarrista, ed ha anche un fratello che è anch'esso, anche lui molto, molto conosciuto, e suona il trombone, si chiama Robin Eubanks, un grande trombonista.
E in questo disco suona con uno dei più grandi contrabbassisti ancora in circolazione, un grande innovatore, che è Dave Holland, e Marvin Smithy Smith alla batteria, che è un batterista di altissimo profilo, che ha suonato con Mingus, che ha una grandissima capacità tecnica, è veramente uno dei cervelli dello strumento.
Una micro informazione, non tra i più importanti, ma per me importante, per noi importante, è che Kevin Eubanks, fra le cose che ha fatto, ha anche insegnato un periodo a Perugia,
sì.
Quindi Perugia sappiamo bene che è un centro importante per il jazz, quindi è legato lui come tanti altri all'Italia.
Bene, ascoltiamo Kevin Eubanks per chiudere il nostro spazio jazzistico di oggi. Questa è Like the Wind, da un disco che si chiama Spirit Talk Revelations, è un disco del 1994, mi sembra di ricordare. Kevin Eubanks.
Questa bruscellando specialissima, con sapore veramente di mare, di estate, di tanta bellissima musica e di amici che continuano ancora a seguirci. Noi ovviamente salutiamo la nostra Fiordaliso, il nostro George, impegnati per lavoro non in Belgio, quindi all'estero. Speriamo di averli prossimamente qui martedì 7 luglio, avremo una puntata speciale dedicata a De André martedì prossimo, quindi insomma ci sembrava doveroso ricordare un artista di così alto spessore. E volevo ricordare in chiusura, ma credo che tutto l'equipe di Bruscellando si unisca a questo mio omaggio, ad un artista magari controverso che proprio recentemente è scomparso, quindi l'equipe di Bruscellando nel suo piccolo saluta il grande Michael Jackson, che non è più insomma con noi. Probabilmente però le sue canzoni continueranno ad essere la cornice ideale per tanti adolescenti, teenager, ragazzi, adulti, insomma tutti coloro che fino ad oggi lo hanno amato. E con questo saluto ovviamente io ringrazio come sempre anche Paolo e Stefano.
Grazie a te Maria,
buona serata.
E Dani M ovviamente in regia.
Buonasera a tutti.
E ci risentiamo sulle onde di Radio Alma 101.9 martedì prossimo. Buona settimana a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.
Avete ascoltato